Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Bon, vous avez sans doute vu passer cette nouvelle. On en a parlé hier. Le gouvernement Legault a dans ses cartons un projet de loi, une loi spéciale là, pour garder à distance des écoles et des hôpitaux les militants anti-vaccins qui sont très bruyants, qui abordent les élèves autour des écoles pour leur dire de pas se faire vacciner. On en a parlé avec Marois Risky, la députée libérale, hier. On va faire une entrevue réaction avec Joey Vital qui a confronté un manifestant anti-vax devant l'école primaire de son fils il y a quelque temps. On l'avait mis en onde. Il est au bout du fil. Salut Joey.
Hey, salut Pat.
Content de cette nouvelle-là, d'une loi spéciale?
Écoute, oui, c'est plus rapide que je m'aurais attendu, mais honnêtement, ça a été une belle surprise de voir là, que les paliers gouvernementaux ils ont pu justement s'entendre. Les quatre parties, ça a été initié par Marois ici, justement. C'est super apprécié de voir là, que tout le monde travaille ensemble pour la vie de mes enfants.
Toi, ça s'est passé à Saint-Roch-de-Lachigan, Joey, ouais. Et c'était une de ces premières manifestations-là. Rappelle aux gens ce qui s'était passé près de l'école de ton enfant.
Ben, en fait, je suis arrivé pour porter mon fils à sa rentrée scolaire le 1er septembre, justement pour sa première année. Puis, à mon arrivée, ben, j'avais vu qu'il y avait une quinzaine de manifestants là, qui avaient des porte-voix puis qui gâchaient la rentrée des kids. Puis, écoute, j'ai eu quelques affrontements avec les gens. Ils étaient en Facebook Live, ça a été filmé. Beaucoup de gens ont vu la vidéo. On voit que je suis pas très content envers eux parce qu'il y avait pas d'affaires là. Puis, bref, c'est tant mieux qu'il n'y a pas eu un dénouement où ce que j'ai eu de la violence ou des choses comme ça, parce que, tu sais, justement, je pense que cette loi-là va prévenir des choses qui n'auraient pas dû arriver, qui seraient probablement arrivées parce que ces gens-là n'ont pas de respect pour les enfants et pour les gens qui vivaient des beaux moments. Donc,
toi, tu dis, Joey, que si ça se multiplie, quelqu'un fatalement va finir par perdre patience et il y aura plus que des mots, là.
C'est certain, tu sais, puis je pas le cacher que ça m'a passé par la tête, tu sais, quand tu te fais crier avec un porte-voix là dans le visage, puis que les gens juste comme si t'étais pas là par arrogance, puis que font juste crier puis vouloir d'attention, à un moment donné ça vient chercher, mais je pense que d'avoir gardé la tête froide cette journée-là au bout de la ligne, ça va avoir apporté plus que d'avoir fait des choses que j'aurais pu regretter par après.
Merci Joey. Reste à l'écoute parce qu'on va parler avec un avocat spécialisé en liberté individuelle qui va nous dire si tout ça a des chances de passer le test des tribunaux. Merci Joey.
On l'espère. Merci Patrick.
Salut. Maître Julius Gray est là, avocat bien connu en liberté individuelle. Pardon, Maître Gray, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que cette loi-là, de ce qu'on en sait, Maître Gray, là, est-ce que ce principe-là est une sorte de contravention à la liberté d'association de manifester?
La manifestation est en soi un droit garanti dans la charte. Association aussi, expression aussi. C'est vrai que les droits ne sont pas absolus. Et il y a déjà des dispositions qui permettent de disperser les attroupements illégaux. Ça a été maintenu par la Cour d'appel. Et les émeutes, donc si c'est violent, si ça fait trop de bruit, par exemple, il y a des limites, les règlements municipaux à ce sujet, il y a déjà des lois, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Je pense que la question qui est intéressante et qui est importante, c'est est-ce qu'on a le droit de manifester avec des idées que la majorité, y compris moi, pense sont incorrects. Je pense que les anti-vax ont tort. Mais est-ce qu'ils ont le droit de manifester devant une école ou devant un hôpital? Et je pense que la réponse est oui. La manifestation, la légalité de la manifestation ne dépend pas de contenu, s'ils ont raison ou non. Il y a des, par exemple, les syndicats peuvent avoir une ligne de piquetage devant une université. Ils ne peuvent pas empêcher les gens d'entrer, ils ne peuvent pas empêcher faire tant de bruit qu'il est impossible de travailler à l'intérieur, mais ils peuvent être là pour exprimer leur point de vue. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée d'essayer de protéger les enfants contre l'expression des opinions marginales ou même stupides dans certains cas. Je pense qu'il faut donner plus de crédit aux enfants. Ils ont un grand niveau d'intelligence et ils doivent apprendre qu'il y a des positions minoritaires, parfois très minoritaires dans notre société, et que la manifestation et l'expression, à condition de ne pas être houleuse ou violente ou bruyante, c'est un droit fondamental. Mais si le gouvernement invoque la clause non-obstant, ça va être la troisième fois qu'ils le font. Ça voudra dire que le gouvernement Legault pense que la charte est tout simplement une entrave à la politique, ce qui n'est pas le cas. La charte est importante, c'est une loi fondamentale et il faut garantir cette liberté.
Maître Gray, on a fait beaucoup de parallèles avec l'interdiction qui est faite aux manifestants anti-avortement de manifester près des cliniques où ils se pratiquent des avortements. Est-ce que ce parallèle-là pourrait s'appliquer légalement aux écoles et aux hôpitaux?
Il y a certains cas où ça pourrait s'appliquer, mais n'oubliez pas que la clinique d'avortement, ils sont là pour essayer précisément de déranger, de fermer. Il y a eu de la violence aux États-Unis et ce n'est pas la même chose que l'expression d'une opinion que beaucoup de gens ont dans la société au sujet des vaccins. Maintenant, je pense qu'on a le droit d'avoir une manifestation anti-avortement, encore une fois, une opinion avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais c'est pas ça le test.
Je vous demande ça, mais je m'excuse de vous interrompre.
On pourrait exiger ici aussi
Maître Gray, si on ne peut pas manifester à l'intérieur d'une certaine distance des cliniques d'avortement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas appliquer le même principe pour les écoles?
On pourrait, mais quelle est la distance? C'est pas très loin. On ne peut pas empêcher une manifestation qui exprime ces opinions-là et qui est visible pour les enfants. La raison pour la clinique d'avortement, c'est qu'il y a toute une historique de confrontation violente. Aux États-Unis, il y a eu des morts parce que les deux côtés, surtout les manifestants anti-avortement, étaient violents. À plusieurs reprises, pas toujours, mais à plusieurs reprises. Ici, si on dit, je pense qu'on ne peut pas bloquer l'entrée, je serais d'accord avec vous, mais s'ils sont de l'autre côté de la rue, s'ils manifestent paisiblement, et s'ils permettent aux gens qui passent, et également aux enfants, aux professeurs, d'apprendre quel est leur point de vue. Je pense que c'est la fonction fondamentale de la charte de le permettre.
Est-ce que vous connaissez des décisions des tribunaux? Est-ce que vous pensez que les tribunaux torpilleraient une loi semblable?
Je pense que s'il n'y a pas de clause non-obstant, c'est certain qu'il a torpilleré parce qu'il y a déjà des dispositions complètement légales pour disperser la manifestation si elle devient houleuse et pour punir les participants s'ils participent dans quelque chose de très désagréable. Alors, une manifestation paisible, je pense, va être protégée, à moins d'une clause non-obstant, auquel cas, ça devient le même argument que la loi 21 ou la loi 96. C'est un débat qui se fait actuellement devant les tribunaux. Mais sans la clause non-obstant, je suis persuadé que les tribunaux diront qu'une manifestation tranquille et paisible est permise.
Merci, Maître Gray.
C'est un plaisir.
Bonne journée. C'était Julius Gray, avocat spécialisé en libertés individuelles. Vous le voyez, il y a une grogne populaire. Ça trouve un relais dans la classe politique. Je pense que c'est assez unanime à l'Assemblée nationale, là, l'appui à cette loi spéciale qui est envisagée peut-être pour demain, pour empêcher les manifestations devant les écoles, éventuellement devant les hôpitaux. Sauf que devant les tribunaux, ça risque d'être une autre histoire.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est la dernière semaine des audiences de la coroner Jeanne Kamel sur les horreurs au CHSLD Aaron lors de la première vague. C'était au printemps 2020. Ce qu'on apprend sur le manque de personnel, sur le manque d'équipement, sur les conditions de vie et de décès des résidents là au printemps 2020, c'est proprement consternant. On va parler de tout ça avec Dr David Lucier. Il est gériatre, donc médecin spécialisé dans la santé des personnes âgées. Salut David.
Salut Patrick.
Qu'est-ce qui t'a frappé dans ce qu'on a appris ces derniers temps à l'enquête de la coroner?
Ah, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Je crois que ce qui m'a le plus frappé, pour résumer là, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, là, évidemment, j'ai pas assisté aux audiences, c'est que ce qu'on savait, c'était épouvantable. Ce qu'on ne savait pas, ça l'était encore plus. On avait entendu beaucoup de choses sur Aaron qui était tout à fait inacceptable, qui nous faisait, qui créait une révolte, une colère. Je pense que c'est vraiment ça, les émotions. Mais jamais j'aurais pensé que c'était encore pire que tout ce qu'on avait entendu, que la condition des gens à cet endroit-là, que la négligence qui était là, sûrement beaucoup avant. Dans les résumés quotidiens, à chaque fois, il y a des choses qu'on se dit, ben voyons. C'est impossible que ça soit passé au Québec, dans une société civilisée où on essaie de donner des bons soins là en 2020. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus frappant. C'est qu'on se dit, si tout ce qui s'est passé là est encore pire que ce qu'on savait, il y en a combien d'autres endroits comme ça qu'on ne sait pas encore? Moi, c'est toujours ça qui m'inquiète quand j'apprends quelque chose, c'est de savoir qu'est-ce que je ne sais pas actuellement.
Ben, David, tu fais bien de souligner là ce qu'on ne sait pas à propos des autres CHSLD. Je veux juste rappeler que à la même époque, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient et qui se passaient pas au CHSLD à Sainte-Dorothée, à Laval aussi. Je sais pas c'est quoi le statut de ce qu'on va apprendre là-dessus, mais c'est vrai que ça donne un peu le vertige.
Il y a eu l'enquête du coroner, par contre, sur le CHSLD Sainte-Dorothée déjà. Là, Aaron, c'est la dernière. Puis ce qu'on a appris à Sainte-Dorothée était beaucoup moins pire que ce qu'on entend sur Aaron actuellement.
Qu'est-ce qui est la part de la négligence humaine? Qu'est-ce qui est la part de la négligence du système dans ce qu'on apprend?
C'est très difficile à dire. Je pense qu'on peut pas répondre à cette question-là. Peut-être que la coroner va être capable d'y répondre quand elle va faire son rapport. Je pense qu'actuellement, moi, je suis incapable de dire qu'est-ce qui est la part de qui. Je pense que malheureusement, ça, c'est un problème de pas être capable de connaître. Et on parle toujours du modèle du fromage suisse, hein. C'est que tu as plusieurs tranches de fromage suisse superposées. Donc, le risque que tu tombes toujours sur un trou pour aller d'un bord à l'autre est faible parce qu'il y a plusieurs couches de protection. Mais là, on dirait que tous les trous du fromage se sont enlignés pour que toutes nos couches de protection fonctionnent pas. Il y avait de la négligence de la part des propriétaires. Il y a eu, après ça, dans la COVID, il y a eu une des choses qui m'a frappé quand tu le demandais tantôt, c'était quand les préposés qu'on disait qu'ils avaient déserté le personnel, c'est que là, on apprend qu'ils sont partis parce que le 811 leur aurait dit que quand tu es en contact, tu te mets en isolement. Mais c'est pas normal que quelqu'un qui travaille dans un CHSLD, même privé, doive se fier au 811 pour savoir quoi faire. Donc, il y a une négligence là de quelqu'un qui n'a pas donné les bonnes informations. Ça, c'est probablement la faute du système qui aurait dû être capable de bien renseigner ces gens-là. Après ça, ça a été très, très long avant que le CIUS puisse prendre le contrôle de l'établissement. Est-ce que c'est la faute du système ou des gens qui étaient là? Moi, je suis pas en mesure de répondre à ça, mais ça aussi, ça semble avoir été un problème, là. Donc, c'est très... Je pense, par contre, qu'il faut faire attention de ne pas généraliser au système. Moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés quand on donne trop de négatifs par rapport au CHSLD, parce que dans la très, très grande majorité des cas, les gens ont des bons soins dans la CHSLD. Il ne faut pas généraliser ce qui s'est passé à Aaron, à tout le système, mais dans ce cas-là, le système et les personnes en place ont été responsables de beaucoup de souffrances et probablement de beaucoup de décès aussi.
Tu travailles avec des patients qui sont en résidence pour personnes âgées, des RPA, des patients qui sont en CHSLD. T'es d'accord avec moi que quand je comprends que tu dis qu'il faut pas généraliser, mais ce qu'on apprend sur Aaron, ce qu'on a vu pendant la première vague, ça donne pas envie de vieillir dans ces institutions-là, quand même.
Non, c'est sûr qu'il faut toujours séparer deux choses, là, je trouve. Personne n'a le goût d'aller en CHSLD parce que personne n'a le goût d'avoir besoin d'aller en CHSLD. On ne veut pas avoir une perte d'autonomie qui est assez grave pour avoir besoin d'aller en CHSLD. Une fois qu'on est là, la plupart des gens sont relativement heureux en CHSLD. Là, quand on se promène dans un CHSLD, on n'entend pas des gens qui crient à l'aide à longueur de journée tout le temps. Là. Donc, les gens, je pense, ont des bons soins dans la très, très grande majorité des cas. Mais le système n'a pas été capable, dans ce cas-là, de détecter qu'il y avait des mauvais soins à ce moment-là, comme il y a eu un cas aussi en Chaudière-Appalaches, là, où je crois, ou quelque chose de semblable, et probablement dans des CHSLD publics aussi dans la COVID, parce que le système s'est écroulé complètement, le système des CHSLD, qui était mal préparé et qui n'a pas bien réagi à ça. Et ça, ce qui me dérange beaucoup, c'est que dans tous les rapports qu'il y a eu, il y a eu des rapports de coroner, il y a eu la commissaire à la santé, il y a eu la protectrice du citoyen. On est encore dans l'intérimaire. Là. Ces gens-là n'ont pas fait leur rapport final, mais on ne comprend pas encore ce qui s'est passé. En tout cas, moi qui m'intéresse à la question, je ne le comprends pas. Puis ça, j'espère qu'on va le comprendre un jour. J'espère que les gens qui sont en autorité le comprennent pour prendre les moyens pour pas que ça se reproduise.
Est-ce que, on le sait, là, il y a des enquêtes, disons, à la pièce, la coroner, il y a, tu l'as mentionné, là, la commissaire à la santé et au bien-être. Est-ce que ce serait utile d'avoir une commission d'enquête publique sur les 7000 morts qui ont été répertoriées dans les RPA, CHSLD, chez les personnes âgées?
Moi, je faisais partie de ceux qui sont probablement les rares qui disaient non au début, parce qu'il y avait toutes ces personnes-là qui feraient des enquêtes, parce que je croyais que le plus important, c'était que les gens qui sont en autorité le sachent. Maintenant, je dois dire que j'ai changé d'avis. Je pense encore là parce que ce qu'on a découvert à Aaron est beaucoup pire que ce qu'on savait déjà, qu'on n'aurait pas su s'il n'y avait pas eu l'enquête de la coroner. Maintenant, je crois que oui, ça prend une enquête publique pour comprendre les causes, pas pour blâmer quelqu'un, mais pour comprendre les causes, pour pas que ça se reproduise. On n'aura probablement pas une autre pandémie prochainement. S'il y a une autre pandémie semblable, j'espère qu'on va être bien préparé. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le système et il faut comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
Bonne observation. Merci, David. Bonne journée.
Avec plaisir. Au revoir.
Salut. Dr. David Lucier, médecin gériatre. C'est la journée en ville sans ma voiture un peu partout et c'est l'occasion de se poser plein de questions sur notre rapport avec nos véhicules automobiles. Et MC, toi qui habites dans Rosemont, il y a comme un mouvement pour que les gens partagent des autos.
Je le disais tout à l'heure, on est la place au Canada où il y a le moins d'auto par habitant, mais moi j'habite aussi à la campagne, fait que j'ai pas le choix, j'ai besoin d'un char. Le plus que je peux, je viens au travail au centre-ville en vélo, puis j'aille ça être pris dans le trafic.
Ouais, tu pourrais décider de rester à une des places aussi.
Oui, je pourrais décider, mais ça me ferait là, je dépenserais du gaz en calvasse. La meilleure façon de préserver l'environnement, c'est de pas changer votre vieux char. Ça, McSween va être d'accord avec moi, Ferrandez va être d'accord avec moi. Mais évidemment, c'est la relation avec les voisins qui me fait rire, parce que j'ai des voisins artistes, c'est Rosemont, n'est-ce pas? J'ai été des pancartes Québec solidaire, et NPD, puis Wookaloo, puis c'est bien le fun, puis tout est bien beau. Et puis en avant de chez nous, il y avait un arbre. Puis moi, techniquement, tu sais, je trouvais ça pas particulièrement beau. Et à l'époque, il y avait un stationnement. Fait que j'aurais aimé ça mettre un stationnement, j'aurais pas pu me mettre dans la rue. Mais là, attention, la guerre du parking a pogné chez nous avec mes voisins, parce que je suis à Montréal, tu sais, il y a des condos au-dessus de moi et tout ça. Et puis là, l'année passée, toi, on se lève un matin, y a-tu pas un pied de marde dans ma cave parce que l'égout a bouché?
Okay.
Pourquoi l'égout a bouché? Parce que vous remarquerez qu'à Montréal, il n'y a jamais un arbre de planté au milieu de la maison. Ils sont tous plantés entre les maisons. Pourquoi? Parce que l'entrée d'eau puis la sortie d'eau est où? Est au milieu de la maison. Fait que si tu plantes un arbre là, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il boit de l'eau. Puis qu'est-ce qui se passe dans un tuyau? Il passe de l'eau. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il casse le tuyau. Le tuyau a jamais.
Reflux d'égout.
Reflux d'égout. Négocier avec les voisins parce que la cave est partagée. Et là, la panique pogne, toi, chose. Faut sauver l'arbre. Là, moi, je suis comme... Moi, je suis un gars de région.
Sauver l'arbre.
De quoi qu'on parle? Écoute, mes voisins forains que j'aime d'amour, je les appelle comme ça parce qu'ils travaillent dans le cirque, et d'autres voisins acteurs, et plein d'autres affaires de même, des artistes, des chanteurs. Il faut sauver l'arbre. Là, je suis comme, de quoi on va sauver l'arbre? J'en coupe à la campagne 25 par année pour chauffer. On sauve l'arbre, groupe, tout le monde, rah, rah, le manifestant. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Par chance, le gars qui est venu pour creuser mon égout, c'était un gars de Mascouche qui
avait tout le monde voulait sauver l'arbre, même si ça inondait la cave.
Ouais, puis là, on n'a pas le choix, là, parce que ça coule de tout partout. Puis sauver un arbre, en passant, les racines, c'est deux fois plus large que la grosseur de l'arbre. Fait que des racines, il y en a partout. Tu peux, si tu veux, là, mais il faut t'aider de l'argent en Simonac. Fait que le gars de Mascouche arrive avec son pick-up puis sa pépine. Puis là, moi, je suis un peu en calvasse parce que j'ai tous mes champions, tu sais, qui donnent des becs à l'arbre, puis qui sont comme, il ne partira pas, j'aime cet arbre.
T'es-tu sérieux, là?
Je te jure, il est ma nature, il est moi. Bon, salut mes voisins, d'ailleurs, ça va être le fun, la première, la prochaine rencontre des copropriétaires. Là, le gars, il dit, il me regarde, il me fait un clin d'œil, il dit, inquiète, t'es pas le gros, m'occupe de ça. Parfait. On parle le même langage.
Le gars de la pépine.
Ben, il voit bien qu'on est du même bord. Fait qu'il, tu sais, il commence à creuser pour aller arracher l'arbre, mais tu sais, avec les racines, mais il a fait un faux mouvement, malheureusement. Il a accroché une des deux manivelles, ça a fait crunch, puis là, l'arbre a sacré le camp à terre. Là, j'ai vu des voisins avec une larme. Puis là, le gars, il m'a regardé avec un clin d'œil, il m'a dit, « Tu l'avais dit, El Guero. » Yes! L'arbre est tombé à terre, on l'a arraché. Bon, là, après ça, la négociation, non, on n'a pas fait un stationnement, on a fait un jardin communautaire. Là, maintenant, il y a des tomates, puis des petites fêtes. Sérieusement, ça, j'ai pas trop
de
ça.
J'ai une question, ces gens-là ont-ils une voiture?
C'est une excellente question, parce que non. Mais je leur donne, ils sont très bons, c'est-à-dire que, tu sais, ils font du monocycle, puis du bicycle. L'autre jour, mon voisin est arrivé avec une chaise berçante qu'il avait trouvée dans les vidanges en bicyclette. Peux-tu te dire que c'est un projet? Sauf que comme ils n'ont pas de char, ils ont des projets avec nous autres, on dit on préfère un partage d'auto communautaire. Moi, j'ai un char, puis nous, on n'en a pas. Fait que moi, je paye pour mon char, eux autres prennent mon char.
Je leur prête ta voiture.
Non, mais c'est logique. Si tu veux aller sur Home Depot pour acheter des planches, ça prend un char, fait que tu vas nous passer ton char. Fait que c'est ça.
Mais ce que tu me dis, c'est qu'ils n'ont pas de voiture, mais ils empruntent ton auto.
Ben, c'est la journée sans voiture. Je trouve ça sympathique. Sauf que c'est sûr que si t'as pas de char puis t'empruntes des chars quand t'en as besoin, c'est comme si t'avais un char.
Sans le payer.
Et là, je suis un peu comme toi, Catherine. Je le prends un peu personnel parce que mon char, ben, il est à moi. Et là, j'ai trouvé plusieurs trucs. Un, mon char, c'est une vidange. Fait qu'il y a de la cochonnerie là-dedans. Tu peux pas, j'ai du McDo d'il y a 3 ans. Fait que tu veux pas le prendre parce que ça sent le yarbre. Deux, il est standard, il est manuel. Je ne conduis pas manuel, c'est compliqué, ce n'est pas comme mon vélo. Good, tu prendras plus mon char! Tu vas faire livrer tes planches, puis tu vas t'arranger. Puis ça me dérange pas que tu vives en vélo, puis en marche à pied. Sauf qu'il y a des affaires que tu pourras pas faire. Mais ils sont vraiment fins, là, je le répète, ce sont des artistes, je les aime beaucoup, beaucoup. Et ils ont des projets comme Luc. Il y avait des spectacles en Mauricie l'été passé. Ils sont allés faire le spectacle à Shawinigan en Bessic. Ben, ils l'ont fait une fois, là, parce qu'ils vendent dans le bout de Yamachiche. Deuxième fois, ils sont allés en char.
Avec ton char?
Non! Moi, je suis prêt à déposer des gens sur le chemin. Mais c'est fini. Je ne passe plus mon char. Fait que j'aime la bien-pensance. Mais à un moment donné, c'est sûr que si tes voisins t'aiment ou tout ça. Puis là, c'est des fois, ça cogne pas. Allô? Oui? Non. Non, non!
Mais ils prennent pas de communauto, ces gens-là?
Oui, oui, ils sont en train de s'organiser. Mais ils n'ont pas le choix, là. Faut qu'ils s'arrangent. Moi, je suis plus là, là. Fait que, tu sais, moi, ça arrivera plus, là. Moi, mon char, il est des choses. De toute façon, ça, c'est l'autre projet. Où je parque mon char, demandez-moi-le pas. Je pars d'ici, là, puis c'est comme projet. Trouver un stationnement. Pout, 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 pout.
Je sais. Vas-y, Pat.
Tu voteras pas projet Montréal.
Peut-être, pour vrai. C'est juste que... Hey, là, je vous parle pas de l'hiver.
Vas-y, Cap.
Je sais que t'as un gun à souder aussi dans ta voiture. Non, mais... Ça m'a beaucoup impressionné.
J'ai l'air maudit parce que je vous passe pas mon char, mais si vous me croisez, peu importe ce qui m'arrive, je peux vous sauver parce que je peux changer un pneu, je peux souder, je peux faire fondre du métal.
Merci.
Peux tout faire.
J'ai beaucoup ri, MC.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Prochaine entrevue. Écoutez, les enseignantes ne sont pas obligées d'être vaccinées, contrairement aux travailleurs du milieu de la santé à partir du 15 octobre. Et il y a toutes sortes de mesures barrières quand même là, pour protéger les enfants et les adultes dans les écoles. D'abord, il y a plusieurs personnes dans le personnel des écoles qui sont vaccinées. Il y a le masque, il y a la bulle de classe, les tests rapides éventuellement. Mais quand une enseignante anti-vax, anti-mesures sanitaires continue à enseigner, ben, pas besoin de faire un dessin, ça peut déraper, ça peut avoir un impact important sur toute l'école et au-delà de l'école même. Là, je vais pas nommer l'école dont il va être question dans la prochaine entrevue. C'est une école primaire qui fait partie du Centre de services scolaires de Montréal. On n'a pas donné non plus d'indices sur l'identité de l'école, de la prof. Hein. Le but ici, là, c'est pas de jeter la pierre. On va parler avec Isabelle. Isabelle a deux enfants dans cette école primaire. Elle est au bout du fil. Salut Isabelle.
Bonjour Patrick.
Qu'est-ce qui se passe à l'école de vos enfants présentement?
Ben écoutez, depuis ce week-end, on a reçu plusieurs courriels comme quoi qu'il y avait une éclosion active à l'école, plusieurs classes qui fermaient donc le samedi, le dimanche. Et là, breaking news, il y a 30 minutes, l'école est complètement fermée. Donc, c'est ça qui se passe,
très probablement. OK. Là, écoutez, les parents se parlent, le monde est petit. Le soupçon, là, c'est que la contamination originale, ça provenait d'une enseignante qui n'est pas une titulaire de classe, OK? Elle a d'autres fonctions. Et tous les élèves, plusieurs élèves, disons, de plusieurs classes, doivent l'avoir. Pourquoi c'est elle qui est soupçonnée?
Ben en fait, c'est ça. Ça a commencé en fin de semaine. Il y a un groupe de maternelle qui a été avisé comme quoi qu'il avait été en contact étroit avec une enseignante qui avait été testée positive. Donc, par mesure de prévention, comme les maternelles ne portent pas de masque, ils devaient fermer la classe. Alors, c'est facile de savoir qui peut être l'enseignant, étant donné qu'il côtoie comme 3 ou 4 personnes. On savait que c'était pas la maîtresse principale. Et donc, de fil en aiguille, on a fait le lien avec une enseignante spécialiste à l'école qui avait enseigné à cette classe-là la semaine dernière et pas à la classe de mon fils. Donc, on savait pourquoi cette classe avait été fermée.
Et là, vous êtes allé voir la page Facebook de l'enseignante en question. Qu'est-ce que vous avez découvert?
Exactement. Ben, comme je connais son nom, j'ai acheté la stalker sur Facebook. Et puis là, je vois, mon Dieu, des posts anti-vax, complotistes, de la désinformation. J'étais outrée. Je me disais, oh mon Dieu, mais elle doit pas être vaccinée. Les chances sont comme extrêmement minces qu'elle soit vaccinée. Et c'est avec cette personne-là que les enfants ont été en contact. Puis elle est en contact avec tous les enfants de l'école. C'est une spécialiste. Elle enseigne à tous les groupes. Donc, j'étais un petit peu outrée. Et dimanche, en fait, on a reçu la nouvelle comme quoi que bon la classe de mon plus grand était fermée. Là, je lui ai posé des questions. En fait, je lui ai demandé, j'ai dit ben, est-ce que tu l'as vu cette spécialiste-là cette semaine? Elle m'a dit ah, oui, je l'ai vu. J'ai dit, OK. Puis je lui ai dit, est-ce que vous portez le masque dans la classe? Elle m'a dit, oh non, on a fait de la méditation, puis elle nous a demandé d'enlever le masque, ça nous aide à nous calmer. Là, j'étais, vous avez enlevé votre masque pour la méditation? Il dit oui, oui. Il dit elle aussi, elle enlève son masque. Je dis ben, elle enlève son masque tout le temps. Il dit ouais, il dit elle enlève son masque. Là, j'étais comme OK, mais est-ce que vous êtes à 2 mètres? Il dit non, on n'est pas à 2 mètres, on est en groupe de 4. Là, moi, je pratique pas la méditation, OK? Mais je pense que c'est une activité là, qu'on peut faire très bien en portant un masque. Puis donc là, écoutez, il y a éclosion dans la bulle, dans la classe. Elle allait se faire tester, donc le dimanche, on est allé se faire tester, donc résultat négatif le lundi matin pour 3 d'entre nous et mon grand. Il y a un résultat positif, c'est ça qui est arrivé, donc il a attrapé la COVID-19.
Là, vous et votre conjoint, vous êtes vaccinés, OK? Techniquement, là, vous n'avez pas à vous isoler, mais vous le faites quand même.
Oui, exactement. En fait, bon, la santé publique dit que comme on est entièrement protégé, on n'aurait pas besoin de s'isoler. C'est juste les enfants qui ont besoin de s'isoler présentement. Mais on le fait parce que bon, on prendra pas la chance d'aller contaminer des gens. Puis de toute façon, en toute transparence, je pense qu'il y a personne qui veut nous voir en ce moment, sachant qu'il y a un cas de COVID dans notre demeure. Ça fait 1 an et demi qu'on respecte les règles du gouvernement, qu'on fait attention, qu'on protège nos proches. Moi, j'ai une mère qui est immunosupprimée, donc c'est ça, je prendrai pas la chance d'aller prendre un café avec elle pour peut-être la contaminer. J'ai une grand-mère de 91 ans, je veux dire, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai de la belle famille, tout le monde, 100% de mon entourage, 100% de mon entourage est vacciné. Je ne connais aucun complotiste, aucun anti-vax, ça fait pas partie de mon entourage. Puis là, ben il y a une personne non vaccinée dans l'école de mon enfant qui a réussi à contaminer des enfants, qui ont contaminé d'autres enfants, qui ont contaminé peut-être d'autres adultes, mais étrangement, les adultes ont pas mal sorti négatif. Donc, selon moi, A plus B, il y en a plusieurs qui sont vaccinés. Donc, c'est pas mal ça. Donc, j'irai pas chiller dans un 5 à 7 ou voir un spectacle ou quoi que ce soit. Puis, pour mon travail aussi, en fait, je devais avoir des événements en présentiel la semaine prochaine par la nature de mon travail. Bien, je pourrais pas y aller. J'avais une grosse semaine la semaine prochaine, quelque chose de très stimulant. Puis, je pourrais pas y aller, en fait, à cause de ça. Donc, toute ma vie est sur pause. Puis, après, quand on me dit qu'on vient brimer ma liberté en me demandant de me faire vacciner ou le passeport vaccinal, genre, non, je m'excuse, là, c'est ma liberté en ce moment qui est brimée. Là, en ce moment, là, moi, je suis confinée chez moi. Je travaille en télétravail avec mon conjoint qui est en télétravail, avec mes deux enfants qui sont en isolement, dont un qui a la COVID. Donc, là, la liberté aujourd'hui, c'est ma liberté, puis c'est la liberté de tous les parents et de tous les enfants qui fréquentent cette école-là, qui est brimée en ce moment.
J'allais vous demander avant votre réponse si vous étiez un peu fâché, mais je pense que j'ai ma réponse.
Oui, je suis fâchée, je suis en colère. Ça m'a vraiment mis en colère toute cette situation-là. Écoutez, ça a été une montagne de colère. Quand j'ai su ça le samedi, en fait, j'étais tellement fâchée parce que il y a un enfant de la classe qui a une condition. Donc, d'une des classes, il y a une condition. Donc, si cet enfant-là, une condition, je suis à Sainte-Justine, tout ça, là, si cet enfant-là, est, en plus, cet enfant est testé positif. Donc, s'il développe une forme grave là, de la maladie, ça m'a fâchée. Samedi, j'étais fâchée. Dimanche, encore plus fâchée. Il faut que j'aille me faire tester à cause que la classe, il y a des cas de COVID. Lundi, deux fois plus fâchée, mon fils, il est testé positif. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis encore fâchée. Je comprends pas. Je suis vraiment en colère contre les mesures. Je trouve qu'en fait, on doit protéger les enfants. Puis les enfants, ils n'ont pas accès à la vaccination, ils sont pas éligibles encore. Donc oui, ça va venir. Oui, on fait des tests. Je sais que ça s'en vient, mais présentement, ils n'ont pas le vaccin. Est-ce qu'on peut les protéger? L'école n'est pas étanche. C'est la preuve même. Moindrement qu'il y a une personne non vaccinée qui est contaminée, ça réussit à contaminer toute l'école. Puis ces enfants-là, ils n'ont rien demandé. Puis je peux vous le dire, là, dès que c'est accepté pour les enfants, c'est sûr que je les fais vacciner.
Qu'est-ce, Isabelle, quand vous avez contacté la direction, quelle a été la réponse?
Ben, ça a été une réponse très politically correct, là, comme quoi que bon, ils ne commentent pas les convictions des employés, ça les regarde, que c'est confidentiel, tout ça. T'sais, parce qu'en fait, c'était facile de retracer tout ça. T'sais, Montréal, c'est un village. Hein? Les parents se parlent. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait. Puis moi aussi, j'ai mes sources, des sources sûres. Là, je vous confirme tout ça. Mais c'est ça. Donc, je savais l'information. Je savais c'était qui. Puis, bon, ils ont répondu une réponse très très politically correct. Là, mais en même temps, ils m'ont dit, ben si vous êtes au courant que d'autres parents, en fait, ont vécu la même situation de vous au niveau des mesures sanitaires. Parce que là, il y a eu clairement un non-respect des mesures sanitaires dans la classe de mon garçon en enlevant le masque aux enfants. Donc, il y a eu un manque à ce niveau-là. Donc, il fallait se manifester auprès de la direction. Donc, parce que les enfants, là, ils sont supposés enlever leur masque quand ils mangent leur collation ou quand ils boivent de l'eau. C'est tout. Parce que j'ai demandé à mon garçon, quand tu fais du sport, est-ce que tu enlèves ton masque? Ah, ben non, on est bien trop rapprochés. J'ai dit, OK, mais est-ce que tu l'enlèves? Des fois, il dit, ben, quand on est vraiment distancé, on a un numéro, tout ça, non. Donc, c'est ça. Il y a comme vraiment un manque là. Puis là, ça a fait en sorte que dans la classe de mon garçon, en fait, de ce que je sais, pour avoir parlé à d'autres parents, l'information est confidentielle, mais il y a un tiers de la classe de mon garçon qui serait contaminé avec la COVID-19 en ce moment. Puis, ben, le reste de l'école, je ne sais pas, mais pour qu'on ferme l'école, il doit en avoir quand même plusieurs cas actifs.
Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Bonne chance pour la suite, Isabelle.
Merci.
Salut, à la prochaine. C'était Isabelle, la mère d'un enfant qui a été contaminé. Vous l'avez entendu, l'école est fermée. Il y a plusieurs classes qui avaient été frappées là, dans les derniers jours. Et je suis allé voir la page Facebook de cette enseignante là, qui est soupçonnée par plusieurs parents d'être le patient zéro dans cette école-là. Et on retrouve toute la marmelade habituelle des antivax, des antisanitaires, des sources des sources, je veux dire, douteuses sur la COVID, sur le vaccin, etc. Clairement, une personne qui est anti-vax, ben voilà, c'est ce que ça donne. Et le centre de services scolaires nous a dit, écoutez, quant aux allégations que vous rapportez concernent une employée, nous ne commentons pas les situations concernant nos employés.
Évidemment, on protège les employés, mais on protège pas tout à fait les enfants. Mais ça prend une personne, hein? Une. C'est ça qui est terrible.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, OK, puis si la contamination était venue d'une personne vaccinée, est-ce qu'on aurait le même discours, la même colère? La réponse, c'est non. Parce que la personne aurait
tout fait pour pas que ça arrive.
Tout fait en son pouvoir pour éviter que ça arrive.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.